le sens de la vie. Donc on m'a posé la question cet après-midi. J'avais pas fait la connexion d'ailleurs en fait avec. Je m'étais donné en soi un sens. Le sens de la vie, globalement, j'ai réfléchi, j'en donnerai trois. Et c'est pas forcément ce qu'on attend. Je dirais qu'il y a deux sens majeurs. Il y a un sens naturel qui fait que je ne suis qu'un animal, qui suis mû par mes instincts. Le premier est de conservation. Je vais manger, je vais boire pour me conserver. C'est inconscient, je le fais. Il y a un sens majeur, un deuxième sens majeur, qui est que je possède ce qu'on appelle une conscience. Donc je me pose des questions, parfois trop. Mais avec ce sens, vous parliez de subjectivité. Mais en soi, dire que la Bible n'est pas subjective, il faut d'abord y croire, pour le dire. Et en fait, la vie a le sens qu'on lui donne. Et ce que je voyais dans ce qui était écrit, c'est que je pense que ce sont des sens de la vie qui sont trop réducteurs. C'est pas un grand sens de la vie. Par exemple, je conçois ma vie à travers une philosophie, la philosophie libérale. Donc la non-agression, le respect de la propriété de l'autre, le respect de l'autre, tout simplement. Et de ce sens majeur, ma philosophie, découle un sens de la vie, des sens de la vie éphémères. Parce que je suis, moi, libéral, je vais aider les autres. Parce que ma philosophie de vie me l'impose. En fait. Donc, dire que c'est subjectif, que c'est dangereux, c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est pas dangereux. Enfin, moi, j'ai une vision de vie subjective, mais là, telle que je l'ai exposée, je ne pense pas être une menace quiconque, sauf peut-être pour jouer le troublion dans la cour de Dieu, quoi. Mais ça, je verrai ça avec lui ou pas. Hein, c'est au choix. Hein. Et voilà. Et aussi, sur l'existence de Jésus, c'est pas prouvé du tout, sauf si on est croyant. L'existence de Jésus, il n'y a aucune preuve.
Des historiens pourtant se sont penchés là-dessus et rapportent près des preuves intangibles d'un homme qui révolutionnait son temps en Palestine à l'époque.
Alors, il y a plusieurs. Il y a plusieurs sujets. C'est est-ce que Jésus existait, ou alors qui était Jésus? Parce qu'enfin, à l'époque, des gens comme Jésus, des prophètes, il y en avait à l'appel. Occupation romaine, ça rappelle les prophéties de l'Ancien Testament, Israël se leur a libéré. Donc en fait, Jésus, selon moi, c'est un hasard de l'histoire. Enfin, il a peut-être pas existé. Ce sont peut-être des groupes qui se sont réclamés d'un homme. Ça peut être une sorte de légende qui se serait amplifiée, qui a été rapportée. Mais il n'y a aucune existence, aucune preuve. Il y a certains historiens qui s'appuient sur, notamment, Joseph Flavius, un historien juif, judéen à l'époque, qui a été, qui à la fin de son ouvrage, donc sur les guerres romaines en Judée, évoque le cas d'un Jésus. Mais, enfin, c'est comme si j'écrivais une lettre, je fais PS, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui a vécu en Palestine et qui a fait des miracles. Ça sort de nulle part, en fait.
Ok, donc déjà merci pour le témoignage sur le sens de la vie, hein. C'est très bonne, enfin moi j'étais heureux d'écouter cette perception du sens de la vie. Par rapport à Jésus, effectivement je pense que ça peut être intéressant de dissocier les deux questions, est-ce que le personnage de Jésus a existé, puis après qui était vraiment ce personnage qui existait. Et sur les il n'y a pas que Flavius Joseph, il y a Pline, il y a Trajan, qui l'ont mentionné. Et puis, alors là, je pense que effectivement, il y a quand même encore des personnes qui nient l'existence d'un Jésus, mais la majorité des historiens sont tout à fait d'accord que un certain Jésus a existé et a vécu au premier siècle. Maintenant, qui est-il? Et est-ce que le Jésus décrit de la Bible est le Jésus de l'histoire? Et là, il faut se poser des questions. Effectivement, la figure d'un messie, d'un sauveur, pouvait être assez facilement avancée dans cette époque d'occupation romaine. Mais il y a quand même des éléments que Jésus n'ont pas pu être inventés, parce que qui sont en fait des réalisations de prophéties qui datent bien avant sa venue. l'existence d'un précurseur. Ça, quelqu'un, il peut dire, bon, il peut se dire, voilà, imaginons, voilà, moi je me dis, allez, je vais me faire passer pour le Messie, je lis tout l'Ancien Testament, tout ce qui a été écrit avant ma venue, et je vais dire, je vais réaliser ça, comme ça les gens, ils vont croire que je suis le Messie. Mais il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Le lieu de ma naissance, je ne peux pas le contrôler. L'existence d'un précurseur, je ne peux pas le contrôler. Après, et puis ça peut être lancer un autre débat, la résurrection. La résurrection, on ne peut pas se l'inventer, quoi. Voilà, il y a quand même après des éléments, le témoignage des proches, voilà, qui ont dit vivre avec quelqu'un qui était quand même un peu plus extraordinaire que la normale. Et donc ça, après, il faut examiner les textes, il faut examiner les preuves, mais je pense au moins sur l'existence historique, là, il n'y a rien à dire. Et puis sur l'identité de cette personne qui a existé, là, je vous invite à creuser, parce qu'il y a vraiment quand même des éléments assez forts qui pointeraient dans le sens de quelqu'un qui était plus extraordinaire que la normale.
C'est une question.
C'est compatible, du coup, les objectifs personnels avec le sens absolu. Vous avez dit qu'il y avait les deux. Oui.
Est-ce que le sens subjectif et un sens plus universel sont compatibles?
Oui, ce que vous disiez exactement là-dessus. Quoi. Enfin, comment concilier la conciliation entre les deux?
Ouais, c'est une super bonne question. C'est vrai que j'ai été très tranchée blanc-noir, mais c'est toujours plus complexe que ça. D'ailleurs, moi-même, étant chrétienne, j'avais des objectifs très personnels. Je dirais que, et là je réponds aussi à la question de Florent tout à l'heure, je pense qu'il y a un objectif personnel, s'il n'y a que ça, il est dangereux pour nous-mêmes en fait, pas pour les autres, mais pour nous-mêmes, il a le risque de nous décevoir. Donc la Bible nous appelle à fonder tout d'abord notre objectif de vie, notre sens de la vie principalement sur Dieu, et après dans un second temps, comment est-ce que ça se concrétise? Et bien c'est très subjectif. Et, je sais que personnellement, je suis personnellement convaincue que Dieu nous donne à chacun des objectifs personnels, un cœur différent, une personnalité différente, des intentions différentes, des projets différents, qui n'enlèvent en rien à l'objectif principal. Donc je pense que l'objectif que Dieu nous donne, ça doit être la base, et par-dessus vient notre personnalité, notre parcours de vie. Voilà, je suis comme ça. Merci pour la question.
D'autres réflexions?
Oui.
Alors, juste une dernière réflexion sur. Je vais tutoyer, si on peut se permettre ça. Donc, la réalisation des prophéties, enfin, justement, est-ce que ça ne paraît pas trop beau qu'il y ait. Enfin, il faut y croire, il faut dès de base croire dans la Bible pour croire, en fait, ça s'est exactement produit. En fait.
Ouais.
Toutes ces. Ces prophéties sur son lieu de naissance.
Ben,
il faut d'abord, je crois, en fait, c'est une sorte de logique. Je vais être dedans.
Alors, oui, je vois ce que tu veux dire, mais quelque part, pour tout document historique, on est obligé de croire ceux qui les ont écrits. Je veux dire, moi, j'étais pas présent, même quand Napoléon a eu sa défaite à Waterloo, j'étais pas présent. Mais j'y crois, parce que des gens l'ont témoigné, l'ont mis par écrit. Peut-on croire maintenant les témoignages bibliques de ces apôtres? Alors moi, je dirais, il y a plusieurs choses, mais il faut savoir qu'ils sont morts pour leurs convictions. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui meurent pour leurs convictions ont raison, mais s'ils savaient qu'ils avaient tort, est-ce qu'ils seraient allés jusqu'à se laisser tuer pour une vaste plaisanterie? Vous voyez ce que je veux dire? S'ils savaient expressément qu'ils étaient en train d'inventer une fable, et on leur dit « tu vas être crucifié la tête en bas », le gars il va dire « non, c'est bon, je les connais, c'est pas vrai, c'était pas le Messie, laissez-moi tranquille ». Mais le gars il dit « ouais, j'y vais », parce que ça c'est la vérité, et elle doit être portée de génération en génération. Alors, ça, voilà, ça c'est un des arguments qui dit que effectivement on a besoin d'y croire, mais c'est la source de toute vérité sur l'histoire, on a besoin de croire ceux qui l'ont écrit. Et je pense qu'il y a de bonnes raisons de croire ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, et l'une d'elles est celle-ci. Blaise Pascal, le philosophe français, disait « Je ne crois les histoires que dont les témoins seraient prêts à se faire égorger. » C'est-à-dire que si... encore une fois, ça ne veut pas dire que tous ceux qui meurent, c'est parce qu'ils détenaient la vérité. Mais si on sait qu'on ne détient pas la vérité, est-ce qu'on irait jusqu'à la mort? Ça, c'est... Il faut se poser la question.
On ne sait pas qu'on détient la vérité, on croit la détenir. Ceux qui sont morts pour Mahomet, ceux qui meurent encore aujourd'hui pour Mahomet.
Voilà, alors ils sont convaincus que ce qu'ils croient, c'est la vérité.
Et donc,
Mais eux, ils avaient vécu avec Jésus. Le mec, il dit, Jésus, il est ressuscité ou pas? T'as le choix, soit t'es crucifié, soit tu l'es pas. Le mec, il dit, ben, je crois vraiment, parce que j'étais là.
Il y a des gens qui sont morts à l'époque avec Mahomet, hein, ils se sont battus avec lui, contre les juifs.
Mais moi, je
retiens...
Oui, mais quelle vérité ils défendaient?
Ben, ils défendaient la vérité que leur prophète leur ramenait.
Leur amenait.
Leur prophète.
Oui.
Mahomet venait, leur expliquait qu'il avait des visions de Dieu. Donc, à ce moment-là, c'est tout aussi valable que celle que pour Jésus.
Alors, il faut voir, est-ce que c'était les témoins oculaires?
Mahomet, enfin, a existé.
Ouais.
Il est relaté dans le Coran, dans les hadiths, dans tout ce qu'on veut. Et, enfin, des gens ont vécu avec lui et sont morts pour lui.
Sont morts pour lui, d'accord, ouais. Alors, parce qu'ils étaient persuadés de sa vérité.
Ah oui,
d'accord.
Mais je pense que...
C'est exactement le même raisonnement qu'avec...
La différence que...
Non.
Je pense que la différence que Thomas veut souligner, c'est que ceux qui sont les témoins oculaires de Mahomet, ils peuvent attester, ils disent « j'ai entendu Mahomet dire ça, voilà son enseignement ». Une grande différence entre le Coran et la Bible, c'est que le Coran, c'est purement un enseignement, alors que la Bible, c'est un mélange de faits historiques et d'enseignements. Ce qui veut dire qu'en fait, les témoins oculaires de Jésus, contrairement à ceux de Mahomet, ils ne doivent pas juste dire « j'ai entendu Jésus faire ça », mais ils ont vécu avec, et ils peuvent voir la correspondance de ce que Jésus fait et de ce que Jésus dit. Et par conséquent, si Jésus fait un miracle, si Jésus ressuscite, et là, c'est plutôt un grand miracle, et ben, ils sont là, ils l'ont vu. Ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu? Après, on peut se demander d'autres questions, mais reste qu'ils sont témoins d'un événement et pas seulement d'un enseignement. Et je pense que c'est là la différence qu'on veut souligner. Oui.
Non, moi je voulais juste dire, en fait, on peut aussi remettre en question l'existence de ces témoins. Ouais. Parce que ces témoins ont très bien pu être inventés des siècles plus tard en disant des gens ont vu Jésus qui y ont rapporté ceci. Donc c'est aussi pour ça. Et j'aimerais aussi savoir si vous savez de quand datait la plus vieille Bible en fait qui avait été retrouvée pour avoir justement savoir à partir de quand la.
Alors, ce qui est vachement intéressant par rapport à ta question, c'est que dès les années 54, il y avait déjà, par exemple, la première lettre de Paul aux Corinthiens, donc aux habitants de Corinthe. Et dans cette lettre, il dit justement, Christ est mort pour les péchés, il est ressuscité le troisième jour, et il est apparu à Jacques, à Pierre, à Jean, et encore à une centaine d'autres. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'à l'époque, les gens, ils pouvaient interroger Jacques. À l'époque, les gens, ils pouvaient interroger Jean, ils pouvaient interroger Pierre. Il leur disait, mais dans sa lettre, il dit qu'il est ressuscité. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu l'as vraiment vu, toi? Et d'ailleurs, c'est vachement intéressant pour Jacques. Jacques, au début, il ne croyait pas que Jésus était le Messie. Mais après la résurrection, il y croit et il devient un des piliers de l'église de Jérusalem. Donc ça veut dire qu'en fait, il s'est vraiment passé quelque chose pour que quelqu'un qui se dit « ouais non, ça, lui, je n'adhère pas trop » à quelqu'un qui finalement s'engage pour sa cause. Et ils étaient encore vivants, justement, c'est pour ça qu'il dit ça. On peut les voir à l'époque, enfin plus maintenant, mais à l'époque, on pouvait les voir, dire « hé Jacques, t'as vu ça ?»« Ouais, j'ai vu ça. » Et d'ailleurs, personne n'a pu dire le contraire dans le temps qui était là, quoi.
Il me semble que, donc, un petit peu après la chute de l'Empire romain, l'Église a fait une sélection des textes qu'elle voulait garder de celles qu'elle voulait écarter. Du coup, il y a beaucoup de textes qui ont été perdus et détruits et supprimés. Donc, il n'y aurait pas une partie de l'histoire qui serait potentiellement réelle et dont on n'aurait pas d'infos vu qu'ils ont été détruits. Donc, on n'aurait pas toutes les infos.
Le truc, c'est que la collection de textes qu'on connaît aujourd'hui. Très récente, très proche des événements. Donc, dans les années déjà 120, il y avait les quatre évangiles et que ceux-là qui circulaient comme étant, comme étant les quatre évangiles qui décrivaient la vie de Jésus. En fait, il y a cette idée de faire croire voilà, que c'est l'Église qui a décidé quel texte on revenait pas. Mais les textes circulaient déjà, et au concile de Nicée, c'était simplement une réaffirmation des textes qui étaient déjà présents face à des hérésies qui commençaient à naître. Donc c'est pas qu'ils ont écarté des textes, ça, ils ont dit, voilà, nous reconnaissons maintenant que ce sont ces livres-là qui font autorité, parce que ils étaient déjà le collectif de textes qui était là. Et les évangiles qu'on écrit apocryphes, selon Thomas, selon Judas, tout ça, datent du 2e ou 4e siècle. Donc bien après les quatre évangiles. L'évangile de Jean, qui a été écrit le plus tard, a été écrit dans les années 90, après Jésus-Christ. Donc c'est assez relativement proche.
Dans les années 90, de Jean, vous avez dit.
Ouais,
de Jean. Si Jean a vécu à l'époque de Jésus, c'est pas lui qui l'a écrit dans les années 90.
Il devait avoir dans les 80, je sais pas. Et il devait avoir 90 ans, parce que c'est comme c'est le cousin de. Enfin, non, Jean-Baptiste, c'est le cousin Jean, je sais pas.
Oui, mais il est pas né en zéro, quand même. Il est né avant.
Non, ça c'est Jean-Baptiste qui est né juste avant. Jean était peut-être plus jeune que Jésus. C'est bien possible hein, qu'il soit plus jeune. Bah, il devait être âgé, effectivement.
Pour revenir sur le cas là, des quatre évangiles, enfin, aujourd'hui, les historiens s'accordent sur le fait que les quatre évangiles ne sont pas forcément les quatre premiers évangiles. Bon, ça, c'est, je pense, faux, ce que tu as avancé. Puisque, enfin, par exemple, le cas des évangiles apocryphes hein, qui ont été écrits à la même époque, et ce même. Dès la naissance du christianisme, divers courants ont émergé et se sont affrontés. Quatre courants ont émergé à l'époque. Les martionnites, qui sont en fait les chrétiens qui rejettent l'Ancien Testament. Les ébionites, qui sont des juifs convertis au christianisme et qui veulent que la loi soit respectée, c'est-à-dire que les païens qui se convertissent mangent kasher, se font circoncire. Autant dire que les romains n'appréciaient pas trop ça. Il y a les proto-orthodoxes qui deviendront les catholiques, et en final, il y a les gnostiques qui, eux, sont une secte un peu élitiste, qui ne rejettent pas les évangiles, mais dire que les quatre premiers évangiles qu'on a, qui sont canoniques aujourd'hui, sont les premiers, c'est pas vrai.
Lequel a été écrit avant ? Quel autre évangile a été écrit avant ?
J'invite, je ne veux pas faire de citation précise, je n'ai pas en tête, mais j'invite les gens que ça intéresse, qu'ils achètent par exemple l'ouvrage de Barth Ehrman, Les christianismes disparus, qui relate les dissensions qui ont existé.
Mais les dissensions, d'accord, mais pas de récit d'évangile.
Ah si.
Parce que même la gnose, c'est plutôt même développé au 3e siècle. Alors il y avait des courants pré-gnostiques déjà avant, mais la gnose en tant que hérésie déterminée, c'est le 3e siècle.
Elle émerge au 2e siècle.
Elle émerge avant.
Même entre les premiers chrétiens, par exemple saint Paul, qui lui n'a pas vu Jésus, sauf dans une vision. Donc là, il faut uniquement croire sur parole. Hein.
Est-ce que je peux...
Paul et Pierre se sont affrontés.
Peut-être.
Oui.
C'est votre discussion, juste.
Pour changer de thème, ou c'est fini?
Non,
c'est fini.
Si vous voulez, time is over. Ensemble. Finir.
Et merci beaucoup Florent pour ces remarques. En tout cas, si ça vous intéresse les détails techniques, comme ça intéresse Florent et certains sûrement, et ben il y a un livre qui s'appelle D'où vient la Bible, qui résume comment est-ce que le canon de la Bible a été formé. Donc ça vous explique courtement comment l'Ancien et le Nouveau Testament ont été formés. Voilà. Pour ceux que ça intéresserait plus, il y en a à disposition. Je sais pas quels sont les tarifs ou le fonctionnement.